La première, podcast. Les Belges du bout du monde. Adrien Jovenot sur la première.
Bonjour et bienvenue au camp de base des expats. Tous les dimanches depuis le milieu des années 80, nous appelons celles et ceux qui sont allés au bout du monde et bien souvent au bout de leurs rêves. Et au fil du temps, ces aventuriers, pionniers de notre émission, se sont reproduits et ont formé de nouvelles générations de Belges du bout du monde, ce qui est plutôt rassurant pour la pérennité de notre programme. La preuve, ce matin avec la famille Essemann, ce que nous appelons, je dirais même que nous rappelons dans le désert de Namib. Bonjour Nancy.
Bonjour.
Comment allez-vous depuis la dernière fois où nous nous sommes parlé? Je crois que c'était en 1991.
Ah ben, ça va très très bien, on a juste un petit peu vieilli tous les deux, n'est-ce pas?
Oh, à peine. Franchement, ça se voit pas, je vous assure. J'ai, sur le site de lapremière.be, posté les vidéos de votre Namib Sky Balloons Safari, cette petite compagnie qui organise des survols du désert en montgolfière. Vous pouvez nous rappeler où vous êtes basé, Nancy?
Alors, nous sommes basés dans le désert du Namib, dans la région de Sosuzulé. C'est là où sont les plus grandes dunes du monde, des dunes de couleur orange. Paysage magnifique, du soleil toute l'année, au cœur de la Namibie.
Et vous êtes là depuis 23 ans, la société tourne toujours et la relève est assurée. Nous parlerons en fin d'émission avec vos enfants qui vont reprendre la société, mais qui ont aussi créé leur petite entreprise sur place avec un projet humanitaire et pédagogique exceptionnel. Mais tant que nous sommes un peu dans la réunion de famille, je présente à nos auditeurs votre maman, Lise Harmeny. Bonjour Madame Harmeny.
Bonjour Adrien. Bonjour Nancy.
Comment tu vas?
Bien, bien. Quand j'étais au téléphone, toujours bien.
Dans quelques instants, je vous présenterai une autre partie de la tribu Essemanns qui nous a rejoint en studio.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités sur la page Facebook des Belges du bout du monde.
Les Belges du bout du monde sont ce matin dans le sud-ouest africain. En Namibie, c'est un pays situé le long de l'Atlantique avec 1570 km de plage. Ça fait rêver, hein. Il est entouré par l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe. Il est grand comme 28 fois la Belgique et il ne compte que 2 200 000 habitants, dont la tribu Essemanns, parce que vous êtes une vraie petite tribu. En fait, vous êtes partie, Nancy, avec de très jeunes enfants.
Ah oui, effectivement, Denis et Laurent avaient respectivement 3 ans et 4 ans. Et
vous étiez auparavant, je crois, en poste au Congo, Nancy.
Oui, j'étais en poste au Congo et Denis est né au Congo d'ailleurs. Et on travaillait là dans la ville de Badoli, la petite ville du président où j'étais enseignante. Du Congo, nous sommes partis au Rwanda en pensant qu'on était beaucoup mieux au Rwanda. Ça s'est pas vraiment très très bien passé puisqu'on est arrivé au milieu d'une guerre entre Hutu et Tutsi. Et on est arrivé en Namibie tout à fait par hasard. On ne connaissait absolument pas le pays.
Et c'est un pays où tout est grandiose, des paysages à perte de vue, des plaines lunaires, des dunes de sable rouge, la savane, des montagnes bleues, mauves, c'est paradisiaque. Madame Harmeny, quand vous allez voir votre fille là-bas, vous avez été sous le choc, sous le charme?
La première fois, c'est un vrai choc, effectivement. La Namibie, ça ne ressemble à aucun autre pays, même pas d'Afrique. C'est tout à fait particulier. Et alors le désert, c'est absolument... C'est féerique. Le soir, il y a un nombre d'étoiles. On ne sait pas très bien où on va les chercher, mais il y en a tellement, plus que dans n'importe quel autre pays. C'est un pays absolument superbe.
Vous racontez bien, on a les images et on met d'ailleurs les images en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Quand j'ai vu ce clip, je me suis dit, il faut y aller, ventre à terre, il faut filer, vous rejoindre dans le désert de Namib. C'est ce que nous ferons juste après la chanson de Tiken Jafakoli sur la première.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
En cette journée internationale de l'Afrique, dimanche 25 mai, c'était Tiken Jafakoli sur la première avec son dernier appel. Dernier appel pour les voyageurs à destination de la Namibie. C'est ce matin dans les Belges du bout du monde.
Jusqu'à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Avec Adrien Jovenot.
Et ce matin, nous décollons avec nos amis du Namib Sky Balloon Safari, Nancy et Eric Essemans. Eric, bonjour.
Bonjour Adrien, comment ça va?
Ça va super bien, je suis très 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 content de vous reparler après quasiment un quart de siècle. La première émission chez vous, c'était en 1991. Vous êtes arrivé à ce moment-là, je crois que c'est il y a un an après l'indépendance du pays, la Namibie, toute jeune nation.
Absolument, c'était tout juste un pays tout neuf. Et maintenant, c'est un peu moins neuf, et nous aussi.
Mais non. Alors, vous avez fondé votre entreprise là-bas, après avoir, je crois, grandi à Kolwezi. Donc, vous êtes un enfant d'Afrique.
Oui, absolument. On est trois générations, donc depuis mes grands-parents, qui étaient eux, donc au Congo belge. Puis après ça, on est passé Katanga, puis Zaïre. Et puis maintenant, c'est République du Congo, avec toujours ma sœur et ma nièce qui y sont. Je travaillais en fait à l'époque pour Mobutu dans le cadre donc de l'enseignement, et en même temps on essayait de créer un parc national. Moi j'avais fait la biologie, et puis Nancy est arrivée là comme volontaire, voilà.
Comment est-ce que vous l'avez casté? J'aimerais que vous nous racontiez un peu ça, Eric.
On allait à l'avion parce que bon, c'était comme au cinéma, on allait à l'avion voir qui arrivait, et moi à cette époque-là j'étais avec des amis en bas de l'avion, et puis voilà, quand la porte de l'avion s'est ouverte, j'ai vu Nancy descendre avec une autre volontaire, une copine à elle, que je connaissais, qui était en fait une ancienne du Congo. Et j'ai dit, la deuxième, là, ben, ce sera ma femme. Et le copain m'a dit, mais c'est une bonne idée. Voilà. Puis une semaine après, je lui ai demandé de m'épouser et on est toujours là.
C'était en quelle année, ça, Eric?
C'était en 85, la demande, et en 86, la demande, et en 87, ben voilà.
Non, 85, ils se sont rencontrés, 86, ils se sont mariés un an, jour pour jour, après l'arrivée de Nancy.
Ça, c'est la belle-mère qui corrige, hein, vous l'avez entendu, hein. La maman,
ouais,
Nancy qui est en
studio. Elle a bien fait de corriger.
En studio.
Comme tous les années, hein. De toute façon, comme tous les hommes mariés, je travaille pour ma femme.
Ah, c'est beau. Et puis quand on aime, on compte pas, Eric. C'est presque un conte de fées là pour vous, hein, là-bas. Alors, le conte de fées, c'est chaque matin et ça commence par ce son.
Oui, effectivement. Ça ressemble à un brûleur.
C'est le brûleur. Et écoutez la résonance dans le désert. Écoutez, ouais. Ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, on entend la montgolfière qui se remplit. C'est quoi? Je vais dire une bêtise, hein. C'est de l'hélium? C'est de l'air chaud?
Non, justement, c'est ça la bêtise. C'est de l'air chaud qui est donc chauffé au butanpropane. Donc, c'est du gaz, des gaz naturels qu'on brûle.
Oui.
Et puis, voilà, on est parti. Une fois que le ballon est assez chaud, on s'élève. Et là, on est au-dessus d'un des plus beaux paysages du monde.
Alors, j'imagine qu'il faut partir très tôt le matin, question d'ascendance thermique, mais aussi pour la beauté du paysage.
Et en fait, les lumières sont les plus belles à l'aube et au coucher du soleil. Et bon, nous, on part à l'aube parce qu'en ballon, il faut de l'air très stable. Donc, il faut que la nuit ait refroidi le désert pour avoir la plus grande stabilité en l'air. Et donc, on fait un vol d'une heure après le lever du soleil. Et là où on se pose, on se fait un super petit déjeuner au champagne. C'est pour ça que vous voulez venir. Hein.
C'est pour le vol, hein, le petit déjeuner au champagne, c'est en option. Mais écoutez, quand le bon Dieu laisse tomber quelques gouttes, il ne faut pas fermer la bouche, hein, Eric, il n'y a pas de problème. Si
Exactement.
Vous m'obligez, je viens et j'accepte avec grand plaisir ce petit déjeuner dans un décor de rêve et en très bonne compagnie, parce qu'on a vu, j'imagine, lors du survol des animaux sauvages. Parlez-nous un petit peu de cette faune namibienne.
On a des oryx, on a des springboks, de temps en temps des zèbres. Il arrive, bon, on a eu de temps en temps de chance, on a eu des guépards il n'y a pas tellement longtemps, c'était assez extraordinaire. Mais la beauté du paysage est la raison principale pour laquelle les gens viennent. Les lumières sont extraordinaires, c'est des grandes dunes avec ombre et bien sûr de l'autre côté le sable très orange. Donc c'est la raison principale pour laquelle les gens viennent.
Oui, avec un environnement exceptionnel, hein, la Namibie est très respectueuse de la nature. Et je crois que l'écologie fait partie des valeurs fondatrices du pays. Il y a même dans la Constitution un article qui lui est consacré.
Ah oui, absolument. C'est un pays où on fait très très attention à la nature. Bon, c'est un pays où il y a peu de gens et on sait que le patrimoine, que vraiment la nature, c'est la raison pour laquelle, je dirais, ce pays est maintenant tellement connu, avec une population de 2 millions d'habitants pour à peu près un territoire de deux fois la France. Donc c'est quand même pas mal.
De quoi vit la Namibie? Quelles sont les ressources du pays, Eric?
Ben, en fait, c'est un pays qui est, je dirais, non seulement très stable, mais très riche, parce qu'en fait, on a d'abord la ressource principale, c'est le diamant, avec ensuite des grosses mines d'uranium, d'or. On trouve énormément ces dernières années, un peu partout en Namibie, de nouvelles mines, parce que bon, ça, c'est la ressource principale du pays. Puis ensuite, il y a les pêcheries et le tourisme, qui sont de grands apports également, et l'élevage, que ce soit du gibier, donc des animaux sauvages, ou de l'élevage. Je crois qu'on n'est pas loin derrière l'Argentine avec la qualité de la viande. Voilà.
Vous avez peut-être encore une ferme, Eric?
Non, en fait, nous, on a transformé ce qu'on appelle des anciennes fermes en réserves naturelles. Donc, on vit maintenant dans, je dirais, un parc naturel, mais c'est chez nous et on protège la nature très très fort, non seulement les animaux, mais également, je dirais, l'environnement, parce que bon, on vit dans un écosystème qui est très fragile. Par exemple, pour donner une idée aux gens, quand on sort d'une piste avec un véhicule, on peut laisser des traces qui durent jusqu'à 40 ans dans le désert. Donc on est très très très, je dirais, sensible à ce genre de choses et on empêche les gens de faire du 4x4 hors piste n'importe comment, parce que les dégâts pourraient être très graves pour l'environnement.
Eric, où logent les voyageurs qui viennent faire des safaris en ballon à air chaud chez vous?
Bon, mais maintenant, Adrien, ça a changé très fort. Là, la première fois qu'on s'est parlé, on avait le premier camp dans la région avec 6 lits. Pendant 2 ans, on a tourné à 10% d'occupation de 6 lits. Donc, tu vois, il n'y avait pas énormément de monde. C'était même plutôt difficile de survivre. Aujourd'hui, dans la région, maintenant, il y a plus de 1000 lits. Mais c'est juste, bon, on parle de 1000 lits dans un rayon de 50 km autour de l'entrée d'un parc national. Donc ça fait finalement pas énormément. Mais bon, ça fait 1000 lits, 1000 emplois, même un peu plus, 1200 je dirais maintenant. Et donc les gens ont le choix de savoir où ils vont rester. Mais bon, ce que nous on a construit, c'était à l'époque le premier, enfin c'était Camp Mouicho, qui pour nous était, je dirais, un peu symbolique, puisque c'était celui où on a déposé notre pied final. Le Mouicho en swahili, ça veut dire la fin, donc on s'est arrêté là et on avait commencé une nouvelle vie. Puis après ça, on a construit Koulala Lodge, qui est, je dirais, un des plus populaires dans la région, parce que le plus proche des dunes, le plus proche, je dirais, du but des voyageurs dans cette partie de la Namibie. Et voilà, c'est pas mal, quoi, comme point.
C'est pas mal, effectivement. Ce qui est bien aussi, c'est que la deuxième génération, même la troisième, hein, puisque vos parents étaient déjà en Afrique, la troisième génération s'investit dans le développement du pays. Dans quelques instants, nous parlerons avec votre fils aîné, Denis. Il a lancé une petite école là-bas dans le désert avec son épouse Andrea. Je vous remercie beaucoup, Eric. Et puis, on se reparle dans, je ne sais pas moi, 23 ans. Hein, puisqu'on fait ça tous les 23 ans, plus
oui,
ou moins.
Exactement, non. J'aimerais mieux, hein, un peu plus tôt, la prochaine fois, ce sera, d'après ce que j'ai entendu, en 2015, mais ici, sur place.
D'accord, on arrive pour faire une émission de télé cette fois-ci, parce que je crois que les images sont d'une beauté à couper le souffle. Merci beaucoup. On parle avec Denis, après un petit survol du désert, en montgolfière évidemment, avec Sting et Cheb Mami sur la première.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités sur la page Facebook des Belges du bout du monde.
Sting et Cheb Mami sur la première avec Desert Rose pour nous rappeler qu'avec de l'effort, de l'amour et de la confiance, on peut faire fleurir une rose dans le désert. On peut même y construire des écoles. C'est ce que font nos Belges du bout du monde, la famille Essemans, dans le désert du Namib.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h. Sur la première.
Alors, dans la famille Essemans, j'ai demandé le fils aîné, c'est Denis. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur la première. Alors, l'école primaire, je crois que c'était à la maison, dans le désert du Namib. C'est là que vous avez appris à lire, à écrire, à compter?
Oui, bien sûr. Voilà. Ma mère, étant institutrice à l'époque, a décidé de donner l'école à mon frère et moi. On faisait les cours par correspondance du CNED. Et on a fait ça jusqu'à l'âge de 12 ans, ici dans le désert. Et puis là, à ce moment-là, on est parti à Windhoek, à l'internat, continuer notre système scolaire en anglais, évidemment, l'école ici étant à 350 kilomètres de chez mes parents. Donc, je venais leur rendre visite tous les week-ends.
Oui, c'est la capitale, hein, Windhoek. Et puis, vous avez fait vos études supérieures en Afrique du Sud, à Cape Town.
Oui, voilà, exactement. Après ça, je suis parti à Cape Town. On a fait, mon épouse et moi, on a été étudiés là-bas à Cape Town pendant 3 ans. On s'est occupé de projets humanitaires. Donc, on a démarré ce petit projet. On en a maintenant 15 élèves et 47 en liste d'attente. C'est pour cette raison. Donc, on a démarré un plus grand projet pour construire la première école dans le désert du Namib.
On a mis sur la page Facebook de nos émissions les photos du chantier, la construction de cette école. Et puis un petit film réalisé par votre frère Laurent, qui a créé une société de production audiovisuelle, Endemic Production. Et vraiment, c'est d'une beauté à couper le souffle de voir ces enfants gambader dans les dunes. Un immense bac à sable doré avec... carrément à perte de vue ce paysage. Et il n'y avait pas d'école sur place. Et puis grâce à vous et surtout grâce à Andrea, aujourd'hui il y a Little Bucks, cette école. Je vais en parler avec Andrea, qui est portugaise d'origine.
Je vais vous la passer dans un instant. Elle est à côté de moi.
Merci beaucoup, Denis.
Hello,
elle nous rejoint sur la première. Andrea, qui est la directrice et la créatrice de cette école. Nous allons dialoguer avec la cousine de Denis, parce que évidemment toute la famille est présente en studio aujourd'hui. C'est Carole De Paz. Bonjour Carole.
Bonjour Adrien. Bonjour Andrea.
Bonjour Carole.
Alors, vous avez vu de vos yeux, c'est d'ailleurs vous qui m'avez contacté pour cette émission, Carole, cette école, c'est exceptionnel de construire au milieu du désert, là où les enfants ne sont pas scolarisés, une petite structure d'accueil, une école maternelle et maintenant une école primaire.
J'ai vu les conditions dans lesquelles cette école se construit et je trouve ça tellement épatant que voilà. Maintenant, je me suis destinée à donner un coup de pouce ici en Belgique à Andrea pour que son projet aille plus loin. Pour le moment, c'est une école maternelle, mais je me doute que tous ces enfants qui grandissent, il faudra bien aussi peut-être prévoir une école primaire. Et voilà, c'est le début, à mon avis, d'une grande histoire.
Alors, qui commence par des Little Bucks, des petites coccinelles. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé cette école ainsi?
Ah, je pense peut-être que c'est en référence à toutes les petites bêtes qui circulent dans le désert, je pense.
Et il y en a beaucoup. Hein. Des petits serpents et tout, vous n'avez pas fait de mauvaises rencontres, non, ça a été?
Ah ben moi, j'étais terrorisée au départ parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des scorpions et des serpents. Donc, chaque fois que je posais un pied sur le sable, je regardais où je posais mon pied. Mais non, je n'en ai pas croisé.
Alors, les premières années de nos vies sont les plus importantes, hein, évidemment, ouais. de nos existences. Et c'est pour ça que Andrea a fondé cette école là-bas. Vous donnez cours en anglais. C'est la langue véhiculaire, la langue la plus facilement utilisée en Namibie.
C'est la langue nationale de la Namibie. C'est la langue officielle, c'est l'anglais.
Et alors, vous avez lancé un programme d'échange entre cette école et une école du Brabant wallon.
Alors voilà, l'idée c'était d'essayer de trouver des ponts entre la Namibie et la Belgique. Et mon idée c'était de m'adresser à une école que je connaissais bien puisque mon fils y avait été scolarisé. Et puis c'était une école à vocation internationale qui est l'école internationale Le Verso à Bierge. Et donc j'ai été trouver la directrice de la section fondamentale. Je lui ai parlé du projet d'Andrea et tout de suite elle a trouvé ça épatant, d'autres institutrices également. Donc on a décidé de commencer par des petits échanges entre les enfants de troisième maternelle et les Bucksiens, les petits Little Bucksiens. Et donc il y a des paquets qui s'échangent entre la Belgique et la Namibie. Au début, c'était des dessins et des photos. Et voilà, c'est un début qui ne s'arrêtera pas, à mon avis.
So, Andrea, you have a lot of friends in Belgium. Vous avez beaucoup d'amis en Belgique?
Oui, c'est vrai. We are very lucky.
De quoi avez-vous encore besoin pour faire fonctionner votre école?
On a besoin aussi d'une institutrice parce que c'est très difficile de trouver une bonne institutrice ici avec une bonne formation.
Alors là, j'imagine les étudiants qui sont sur leur syllabus maintenant, qui sont en dernière année à l'école normale ou qui terminent leur formation d'instituteur ou d'institutrice et qui se disent « Mais non, d'une pipe, voilà une place pour moi !» Alors Carole, relayez cet appel. Andrea recherche une institutrice belge, pourquoi pas, pour aller donner cours là-bas en Namibie.
Alors oui, et qui sache un peu parler l'anglais. Alors on ne lui demande pas de lire Shakespeare dans le texte, mais comme les enfants sont éduqués en anglais, il faut quand même que cette institutrice ait un minimum d'anglais. Donc ça, c'est la condition première, parler anglais. Et bon, effectivement, quelqu'un qui terminerait ses études à l'école normale, c'est une expérience absolument démente que de partir dans le désert. Andrea offre des conditions absolument excellentes. Donc, ce n'est pas un stage non rémunéré, c'est un vrai job.
Avec un vrai salaire.
Avec un vrai salaire, des conditions de logement. Et puis, vivre dans le désert, c'est déjà un salaire en soi.
C'est sûr. Ouais. Si ça vous intéresse, on a mis toutes les infos en ligne sur lapremière.be et sur la page Facebook de notre émission Les Belges du bout du monde. Et on vous mettra en contact direct avec Andrea, qui est la directrice de cette petite école là-bas dans le désert. Andrea, je crois que vous avez 15 élèves pour l'instant. Et d'après ce que j'ai compris, on a 40, 45, 50, peut-être même en liste d'attente.
Oui, c'est 15 maintenant, mais on ouvre une école plus grande dans le mois de juin.
Lise, vous êtes fière de votre petite fille là, par adoption
De ma petite fille, de mon arrière-petite fille, de mes enfants. En fait, je suis fière de tout le monde.
Et de sa filleule.
Oui.
Et de ma filleule.
La filleule, c'est...
C'est Carole.
Ah, voilà, 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 je m'y retrouve. Parce que en plus d'être directrice de l'école, vous êtes maman. Vous avez une fille qui suit vos cours. Hein. C'est la petite Chiara. Elle a quel âge, Andrea?
Elle a 4 ans.
Elle est sage?
Oh, très sage.
Confirmation de la grand-mère, enfin de l'arrière-grand-mère du coup. Hein.
Oui, elle est adorable à dire qu'elle est sage.
Mais elle est vivante quoi.
Ah, ça, ah oui, oui, oui.
D'accord.
Oui, oui,
oui.
Comme tous les petits bixiens.
Elle est extraordinaire.
Bien, bah écoutez, on va enchaîner avec une belle mélodie sur le désert. C'est la nouvelle chanson de Jonathan Wilson sur la première, Desert Trip. Et je vous dis obrigado. Merci beaucoup, Andrea.
Merci, merci beaucoup.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Jonathan Wilson avec sa nouvelle chanson Desert Trip. Alors ça tombe bien, nous sommes en Namibie où le Kalahari et le Namib, le grand désert, les deux grands déserts, recouvrent les deux tiers de ce pays de 825 000 km².
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Alors, ça fait 23 ans que vous survolez ce désert en montgolfière, Eric Essemans. C'est un moyen de locomotion, d'observation idéal aussi pour découvrir la faune, la flore. Parce que même dans le désert, ça pousse, ça grouille partout. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez quelques-unes des rencontres exceptionnelles que vous avez pu faire sur place.
La dernière fois qu'on a eu une rencontre super, c'était il y a, vraiment extraordinaire, c'était il y a à peu près 2 mois. Ou à l'atterrissage, on avait 5 guépards, une maman guépard avec 4 jeunes qui étaient déjà de taille adulte, mais qui étaient encore avec la maman. Donc on a eu l'occasion de les voir chasser, etc. C'est assez sympa.
Waouh. Alors vous êtes à Sossusvlei, c'est le sud-ouest, hein, si je ne me trompe pas, de la capitale, Windhoek. C'est à combien de kilomètres de l'océan Atlantique?
Et nous, on est en fait à peu près à 100 kilomètres de l'océan, donc ça fait une très grande plage, hein, même chez vous à marée basse, on vous bat. Non, c'est vraiment un endroit extraordinaire, mais on a encore de temps en temps les brumes de l'océan qui viennent jusqu'à chez nous. Et quand ça arrive pendant l'année dans la période sèche, donc ça donne de l'humidité à toute la végétation, aux animaux, on a des oryx par exemple, qui sont certains animaux, donc sont très 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 bien adaptés au désert, n'ont jamais vu d'eau à part celle qui tombe du ciel. Parce que bon, le désert du Namib, c'est un désert très sec où il n'y a pas d'eau en surface pratiquement nulle part.
Et pourtant, il y a 1350 km de plage, hein, pas très loin. C'est la façade atlantique du pays. Est-ce que vous arrivez, je ne connais pas très bien l'autonomie d'une montgolfière, d'un ballon à air chaud, mais en décollant de Saucy-Soleil où vous êtes, vous auriez, s'il y a un bon vent, la possibilité d'aller jusqu'à l'océan?
C'est possible. En fait, c'est le rêve de mon fils aîné qui, lui et son frère, ont prévu dans les années qui viennent de faire un vol justement de chez nous jusqu'à l'océan, ou même peut-être le contraire, de l'océan jusqu'à chez nous, parce que les vents seraient plus favorables dans ce sens-là. Donc pour l'atterrissage, c'est un peu plus facile que dans l'eau. Donc on a l'intention de partir de l'océan vers l'intérieur du pays, et comme le plus jeune des fils, ben, lui, il fait des documentaires, ça pourrait être pas mal. Ce serait la première traversée du Namib en ballon.
Ouais, c'est Laurent, hein, le fiston qui a créé Endémique Productions, la société qui a réalisé le clip qu'on a mis en ligne, hein, sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Alors je suis étonné parce qu'on voit votre ballon, mais vu d'encore plus haut. Donc il a filmé à bord d'un autre ballon. Comment est-ce qu'il s'est organisé? Ou bien c'est un drone? Racontez-nous un peu les secrets de fabrication de ce clip.
Non, c'est filmé d'un ballon dans l'autre. En fait, dans le drone, il utilise probablement beaucoup plus quand on doit filmer des animaux, etc., parce qu'on peut le diriger. Un ballon, ça ne se dirige pas. Mais par contre, on fait souvent des vols en ballon où il y a plusieurs ballons en l'air en même temps. Et donc, on filme d'un ballon à l'autre en se suivant.
Alors, Laurent a fait des études de réalisateur à Cape Town, en Afrique du Sud, puis il est revenu travailler à Windhoek, la capitale de la Namibie, avec sa compagne Liberty. Liberty, qui a un joli prénom, mais qui a eu une histoire difficile. J'aimerais que vous nous racontiez en quelques mots.
Liberty, en fait, très joli prénom. C'est une fille qui a grandi ici avec une maman, je dirais, extrêmement connue, puisque c'est, je dirais, l'éditrice du plus grand journal du pays, mais quelqu'un qui a évidemment été, je dirais, à la base de la politique d'aujourd'hui dans le pays, parce qu'elle s'est battue pour qu'on arrive à l'indépendance. Et bon, ben, elle a eu, comme tous les politiciens, beaucoup d'ennemis, etc. Et donc, plusieurs fois, je dirais, la maman a été emprisonnée à l'époque de l'apartheid. Et puis aujourd'hui, elle est très connue pour, son grand esprit et son combat pour la justice et la liberté.
Alors Lise Arménie, vous êtes la grand-mère de Laurent. Vous avez eu l'occasion de rencontrer, j'imagine, de côtoyer Liberty, qui a eu un destin très très étonnant.
Liberty et sa maman, oui, bien sûr. La maman s'est rendue compte qu'elle était enceinte quand elle était en prison. Et c'est pour ça, d'où vient son nom Liberty.
Ouais. Liberty qui aide Laurent dans...
Qui a fait les mêmes études.
Ouais, dans sa société Endémique Production. Et j'imagine, Eric, que s'ils ont appelé ça endémique, c'est parce qu'ils sont fous d'écologie, passionnés par la nature, l'environnement.
Absolument, ce sont de grands protecteurs, je dirais, de la nature. Tous leurs films sont orientés sur la nature principalement. Et bon, pour le moment, ils travaillent sur un documentaire non seulement sur le Namib, un autre en Zambie, où on va aussi en ballon et on va faire, je dirais, des vols, des survols de la nature plus verte avec beaucoup d'animaliers par là. Et donc, ils travaillent sans arrêt sur la nature.
Alors, la Namibie, c'est une ancienne colonie allemande. Est-ce qu'on parle encore allemand en Namibie, Eric?
Oui, et c'est quelque chose qui frappe encore. Non seulement, bon, c'est une colonie allemande, c'était donc du temps de la Première Guerre mondiale, donc 14-18, et puis c'est passé en Afrique du Sud ensuite. Mais il y a encore de grandes traditions allemandes ici, avec les fêtes de la bière, Oktoberfest, etc. Et c'est assez marrant de voir, je dirais, encore énormément de locaux noirs et blancs qui parlent allemand couramment.
Ouais. Et vous parlez de fêtes. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'Afrique, hein, le 25 mai. Est-ce que ça se fête en Namibie? Est-ce qu'il y a des traditions particulières?
C'est une grande journée parce que c'est le jour. De l'Afrique, mais bon, la Namibie est un dernier pays qui a accédé à l'indépendance, avec, je dirais, de temps en temps, on peut se dire quand même de bon côté, parce que c'est un pays qui était très bien préparé à cette indépendance, avec, je dirais, politiquement des gens qui étaient assez mûrs pour gérer un pays dans l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Namibie est un pays d'une grande stabilité, avec beaucoup de maturité par rapport à d'autres pays africains.
D'accord. D'où vous êtes originaire, par exemple. Mais j'en n'en dira pas plus, Eric.
Oui.
Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission qui va bientôt se terminer. Mais on va encore donner la parole à la relève. Lise Arménie, vous allez nous présenter Emmerich. Emmerich, c'est un autre de vos petits-fils.
C'est un autre de mes petits-fils. Mon fils qui avait ouvert le lodge. Donc, il a rejoint sa sœur en 1996, si je ne me trompe. Et il a rencontré sa femme, qui elle est namibienne.
Et alors, Aymeric, bonjour. Toi,
bonjour.
Toi, tu es namibien, belgo-namibien alors.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu es déjà allé dans un ballon piloté par Eric?
Oui.
Eric, est-ce que c'était un bon passager?
Ah oui, bah, de toute façon, Aymeric, il est très très bon passager, il est bon élève, c'est un exemple dans la famille. Il est beaucoup moins, je dirais, difficile que Denis et son frère à l'époque. Hein. Aymeric, c'est un ange comparé à Denis et à Laurent.
Il est moins turbulent que ses grands cousins alors.
Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Mais merci Eric. Et Aymeric aussi d'avoir fait ta première radio à 13 ans dans les Belges du bout du monde. Et je vois que la grand-mère a immortalisé ça avec son appareil photo. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Harmony. Merci, Carole Depasse, de nous avoir mis en contact avec toute la famille. Hein.
Merci à vous, Adrien, d'avoir pris le relais.
C'était vraiment la belle réunion du dimanche matin. Là. À bientôt, Eric Essemans. Et bon dimanche en Namibie.
Oui,
bye bye.
À bientôt, Adrien. Alors, je te demandais une petite faveur, là. Je ne sais pas si c'est possible, on a des amis qui viennent d'avoir une petite fille et on n'arrive pas à les contacter, ils sont de la région de Liège, donc c'est la famille Toussaint qui ont une petite Elena.
Toutes nos félicitations, voilà.
On les féliciter.
Ben voilà, vous les félicitez, on relaie ça, évidemment, sur antenne. Et moi je vous fais un dernier petit plaisir, c'est la chanson de Hugo qui s'appelle La Nacelle. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Namib Sky Balloon Safari. Bye bye Eric.
Salut à plus, à la prochaine.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot.
La nacelle pour terminer ce voyage en montgolfière dans le désert namibien, c'était Hugo. Alors de retour sur le territoire national belge, je vous lance un vibrant aux urnes citoyens. N'oubliez pas d'aller voter ce 25 mai. On vous en reparle d'ici quelques minutes dans le journal parlé de 10h et tout au long de la journée sur la première. Passez toutes et tous une superbe semaine sur la première.
La première, podcast.